Deuxième partie. Introduction aux fondamentaux de la prise de poids. Chapitre 9. Les lois de l'adiposité. Le sort d'un rat de laboratoire est rarement enviable, et l'histoire que je m'apprête à raconter n'est pas une exception. Mais nous pouvons néanmoins prendre modèle sur les scientifiques et, passant outre notre empathie, retirer un enseignement de cette histoire. Au début des années 1970, un jeune chercheur de l'Université du Massachusetts, George Wade, entreprit d'étudier les relations entre les hormones sexuelles, le poids et l'appétit chez des rats auxquels il fit subir une ablation des ovaires avant de suivre l'évolution de leur poids et de leur comportement. Les effets de l'opération furent assez spectaculaires. Les rats se mirent à manger avec voracité et devinrent rapidement obèses. Si vous et moi n'étions pas déjà mieux informés sur ces sujets, nous pourrions en déduire qu'une rate ayant subi une ovariectomie devient gloutonne et se met à trop manger, que les calories superflues sont transposées vers ses tissus adipeux et que, par conséquent, elle devient obèse. Et nous nous sentirions confortés dans notre opinion selon laquelle, chez la rate comme chez l'être humain, la suralimentation est responsable de l'obésité. Mais Wade procéda à une seconde expérience de contrôle, dont le résultat s'avéra très révélateur. Après leur ovariectomie, il soumit certaines rates à un régime post-opératoire strict, ne leur donnant pas plus à manger, malgré leur appétit dévorant, que si elles n'avaient subi aucune intervention. Ce qui se produisit alors n'est pas ce que vous pensez, sans doute. Les rates en question grossirent autant et aussi vite que les autres. Mais elles devinrent aussi complètement sédentaires, ne bougeant plus que si c'était nécessaire pour se nourrir. Quelqu'un qui n'aurait entendu parler que de cette seconde expérience se sentirait sans doute à son tour conforté dans ses idées préconçues. Il supposerait que le fait de priver une rate de ses ovaires la rend paresseuse, qu'en conséquence elle dépense trop peu d'énergie et que c'est pour cela qu'elle grossit. Et ici encore, cette interprétation conforterait sa croyance dans le fait que l'équilibre entre les calories consommées et les calories dépensées est le facteur déterminant de l'obésité. En revanche, dès que l'on prend en compte les deux expériences de Wade, la conclusion devient radicalement différente. On déduit alors que lorsque l'on prive une rate de ses ovaires, ses tissus adipeux se mettent à absorber les calories présentes dans son organisme et à développer davantage de graisse, et que si l'animal peut manger davantage pour compenser les calories que son corps retire de la circulation et stocke sous forme de graisse, il le fait, c'est ce que montre la première expérience, tandis que s'il ne le peut pas, c'est le cas dans la seconde expérience, il dépense moins d'énergie car son organisme dispose désormais de moins de calories à brûler. Selon ce que Wade m'a lui-même expliqué, l'animal ne grossit pas parce qu'il mange trop, il mange trop parce qu'il grossit. Nous sommes ici en présence d'une inversion de la cause et de l'effet. Autrement dit, la gloutonnerie et la paresse sont les effets, conséquences de la prise de graisse. Elles sont fondamentalement causées par une anomalie de la régulation du tissu adipeux de l'animal. Lorsque, suite à l'ablation de ses ovaires, une rate se met à stocker de la graisse corporelle, elle doit, pour compenser ce phénomène, soit manger plus, soit dépenser moins d'énergie, soit les deux. Afin d'expliquer pourquoi cela se produit, il me faut aborder certains détails techniques. Il s'avère que l'ablation de ses ovaires prive la rate d'œstrogènes, les hormones sexuelles sécrétées par ses glandes. Notons qu'un groupe de rats à qui l'on avait administré des œstrogènes après l'opération ne sont devenus ni voraces, ni paresseuses, ni obèses, mais se sont comportés comme des rats parfaitement normales. Or, chez le rat, comme d'ailleurs chez l'être humain, les œstrogènes influent entre autres sur une enzyme appelée lipoprotéine lipase, ou LPL. Très schématiquement, la fonction de cette LPL est de retirer de la graisse circulant dans le sang pour l'introduire dans la première cellule venue, capable de reconnaître cette LPL. Or, lorsque la LPL est rattachée à une cellule adipeuse, ou adipocyte, elle injecte les graisses ainsi captées dans l'adipocyte, avec pour conséquence que l'être vivant à qui appartient cette cellule adipeuse engraisse à un degré infinitésimal. Lorsque la LPL est au contraire rattachée à une cellule musculaire, ou myocyte, elle injecte les graisses ainsi captées dans cette cellule musculaire qui, elle, les brûle pour produire de l'énergie. Les œstrogènes inhibent l'activité de la LPL vers les cellules adipeuses. Plus il y a d'œstrogènes dans l'organisme, moins la LPL enlève de graisse au sang pour la déposer dans les cellules adipeuses, et moins ces cellules accumulent donc de graisse, consultez l'annexe, schéma numéro 3. Si l'on prive une rate d'œstrogène en lui enlevant ses ovaires, ses cellules adipeuses vont se développer grâce à la LPL. La LPL ne fera rien d'autre que ce qu'elle fait de toute façon, à savoir introduire de la graisse dans les cellules. Mais cette fois-ci, l'animal va grossir bien au-delà de la normale, car ses cellules adipeuses disposeront de plus de LPL qu'auparavant pour s'acquitter de cette tâche. L'animal éprouvera alors le besoin de manger énormément parce que ses adipocytes absorberont et monopoliseront des calories dont son organisme aurait besoin pour fonctionner et alimenter d'autres cellules. Et plus les adipocytes séquestreront de calories, plus l'animal devra manger pour compenser. Une quantité de nourriture qui, par le passé, l'aurait rassasié ne suffira plus. Et comme l'animal grossira et s'alourdira, ses besoins caloriques augmenteront encore davantage. Il se mettra donc à ressentir une faim féroce. Et s'il ne peut pas la satisfaire, il lui faudra réduire son activité physique pour dépenser moins d'énergie. Étant donné que, comme nous l'avons entendu, il s'avère inopérant de mettre les rats au régime et qu'essayer de forcer un animal à bouger est voué à un échec certain, la seule façon, en dehors d'une nouvelle opération, d'empêcher les rats de grossir est de leur administrer des œstrogènes. Dans ce cas, elles redeviennent minces et retrouvent un appétit et un niveau d'énergie normaux. Pour résumer, le fait d'enlever ses ovaires à une rate entraîne une expansion de ses cellules adipeuses. Sans doute est-ce exactement ce qui arrive à de nombreuses femmes qui prennent du poids suite à une ovariectomie ou après la ménopause. Elles sécrètent alors moins d'œstrogènes et leurs adipocytes se lient à davantage de LPL. L'exemple de ces rats ovariectomisées met sans dessus-dessous la perception que l'on a généralement de la relation de cause à effet inhérente à l'obésité. Il nous montre que deux comportements, la gloutonnerie et la paresse, qui passent pour être les raisons de la prise de poids, pourraient en réalité en être des conséquences. Et il nous montre qu'en prêtant attention aux hormones et aux enzymes qui régulent le tissu adipeux, nous comprenons non seulement pourquoi les rats grossissent, mais aussi pourquoi elles présentent des comportements couramment associés au surpoids. L'un des aspects les plus étonnants des discussions de ces 50 dernières années sur les thèmes de l'obésité et de la perte de poids est que les experts médicaux ont superbement ignoré d'une part le tissu adipeux lui-même et d'autre part la façon dont l'organisme le régule. Cette attitude s'explique, à quelques très rares exceptions près, par la simple raison qu'ils avaient déjà conclu à un problème comportemental, relevant du mental et non du physique. Si la question posée avait été de savoir pourquoi il existe des personnes dont la taille dépasse largement les 2 mètres, tandis que d'autres atteignent à peine 1,20 m, la discussion tout entière aurait tourné autour des hormones et des enzymes qui participent à la régulation de la croissance. Mais lorsqu'on traite d'un trouble dont le symptôme le plus caractéristique est la croissance anormale des tissus adipeux, force est de constater que les spécialistes considèrent que ces mêmes hormones et enzymes ne sauraient jouer aucun rôle. Pourtant, lorsque l'on s'intéresse à la régulation du tissu adipeux, il devient possible d'expliquer les raisons de la prise de poids et les possibilités d'y remédier d'une façon qui diffère radicalement de la conception conventionnelle issue, elle, de la focalisation sur l'équilibre entre l'énergie absorbée et l'énergie dépensée. On ne peut alors que conclure, comme Wade l'a fait avec ses rats, qu'une personne qui grossit le doit à la façon dont sa graisse corporelle est régulée et que l'une des conséquences manifestes de cette régulation est le déclenchement d'un comportement alimentaire, dit gloutonnerie, et d'une certaine inactivité physique, dite paresse, dont on croit si facilement qu'ils sont en réalité les causes. Dans un premier temps, j'aborderai cette idée comme une simple hypothèse de travail, comme une façon peut-être pertinente de considérer les raisons pour lesquelles nous grossissons avant d'expliquer dans un deuxième temps pourquoi cette idée est presque assurément correcte. Mais tout d'abord, il est nécessaire que nous éclaircissions un certain nombre de points ayant trait à la graisse et à son processus d'accumulation, la prise de poids elle-même. En hommage au principe de la thermodynamique qu'ils sont amenés à remplacer, je propose d'appeler ces points « principes de l'adiposité ». Premier principe. La graisse corporelle fait l'objet d'une régulation précise, pour ne pas dire parfaite. Ce principe s'applique même s'il existe des personnes qui grossissent avec une telle facilité qu'il est difficile d'y adhérer. Ce que j'entends par « régulation », c'est que l'organisme humain, lorsqu'il est en bonne santé, œuvre assidûment à maintenir une quantité déterminée de graisse dans les tissus adipeux, ni trop, ni trop peu, ce qui assure par ricochet un approvisionnement régulier des cellules en carburant. Notre hypothèse de travail est que lorsqu'un individu devient obèse, c'est parce que cette régulation s'est détraquée, pas qu'elle a cessé d'exister. Il est incontestable que les tissus adipeux font l'objet d'une régulation précise et qu'ils ne constituent pas simplement un genre de poubelle dans laquelle l'organisme se débarrasserait de toutes les calories qu'il ne brûle pas. Nous pouvons prendre pour point de départ toutes les observations faites au chapitre 5. Pourquoi moi ? Pourquoi là ? Pourquoi à ce moment-là ? Le fait que les hommes et les femmes ne grossissent pas de la même manière indique que les hormones sexuelles jouent un rôle dans la régulation de la graisse corporelle. Une hypothèse étayée par les expériences de Wade et ce que nous savons des œstrogènes et de la LPL. Le fait que, contrairement à d'autres, certaines parties de notre corps soient relativement exemptes de graisse, c'est par exemple le cas du dos de nos mains ou de notre front, indique, lui, que des facteurs locaux jouent un rôle dans l'apparition de dépôts graisseux à tel endroit et pas à tel autre. De même que des facteurs locaux déterminent à l'évidence l'apparition de poils à certains endroits du corps et non à d'autres. Le fait que l'obésité soit un trait héréditaire, une personne a plus de risque d'être en surpoids si ses parents l'étaient, et que la répartition locale de la graisse elle-même relève de la génétique, rappelez-vous la stéatopygie rencontrée chez certaines tribus africaines, indique également que la graisse corporelle est régulée. En effet, comment les gènes transmis d'une génération à l'autre pourraient-ils influencer l'apparition et la répartition de nos dépôts graisseux si ce n'était par le biais des hormones, des enzymes et des autres facteurs qui les régulent ? Le fait que la quantité et même le type de graisse que présentent les animaux soient régulés avec précision constitue un argument supplémentaire en faveur de ce principe, car après tout, nous ne sommes rien d'autre qu'une espèce animale particulière. Certains animaux sauvages sont naturellement gras. C'est notamment le cas des hippopotames et des baleines. Ils prennent du poids selon les saisons, soit pour s'isoler en préparation du froid hivernal, soit pour disposer de carburant lors de leurs migrations annuelles ou de leur phase d'hibernation. En outre, les femelles engraissent en prévision de leur gestation, tandis que les mâles engraissent, eux, pour avoir littéralement un avantage de poids lorsqu'ils combattent pour conquérir les femelles. Mais ces animaux ne deviennent jamais obèses, c'est-à-dire que leurs dépôts graisseux n'entraînent pas pour leur santé les conséquences néfastes dont souffrent les humains en surpoids. Par exemple, ils ne contractent jamais le diabète. Quelle que soit l'abondance de la nourriture disponible, les animaux sauvages maintiennent leur poids stable. Ils ne sont ni trop gros ni trop minces. Ce qui indique que leurs organismes fonctionnent de façon à assurer que la quantité de graisse présente dans leurs tissus adipeux leur apporte toujours un avantage et ne risque pas de mettre leur survie en danger. Lorsque ces animaux emmagasinent de grandes quantités de graisse, c'est toujours pour une excellente raison. Et que ce soit avec ou sans cette graisse, ils sont toujours en parfaite santé. Les rongeurs qui hibernent, comme par exemple les écureuils, dont le poids mais aussi la quantité de graisse corporelle double à la fin de l'été en quelques semaines seulement, fournissent d'excellents exemples de la finesse avec laquelle fonctionne le système de régulation de la graisse chez l'animal, et donc vraisemblablement chez l'humain également. Lorsque l'on dissèque un de ces rongeurs au moment où il a atteint son poids maximal, on ne voit que de la graisse, comme me l'a raconté un jour un chercheur. Mais à l'instar des rats ovariectomisées de Wade, les écureuils accumulent cette graisse quelle que soit la quantité de nourriture qu'ils absorbent. Même enfermés dans un laboratoire et tenus à un régime strict entre le printemps, moment où ils sortent de leur hibernation, et la fin de l'été, ils grossissent autant que leurs congénères pouvant, eux, manger à volonté. Et qu'ils restent éveillés dans un laboratoire chauffé avec de la nourriture à disposition, ou qu'ils entrent en hibernation totale, ne se nourrissant et ne survivant plus que grâce à leur réserve de graisse hivernale, ils brûleront ces réserves exactement au même rythme. En fait, les chercheurs ne peuvent pratiquement rien faire pour empêcher ces animaux de prendre puis de perdre de la graisse à période fixe. Agir sur la quantité de nourriture disponible ne sert à rien, même au point de risquer pratiquement de les faire mourir de faim. Ceci est dû au fait qu'à tout moment de l'année, la quantité de graisse corporelle de ces rongeurs est entièrement régulée par des facteurs biologiques, et non par leur consommation de nourriture, ni par la quantité d'énergie qu'ils doivent fournir pour se procurer cette nourriture. Et il faut reconnaître que rien n'est plus sensé. La nature fait bien les choses. Car si un animal qui a besoin de formidables quantités de graisse pour que son organisme fonctionne durant l'hiver devait impérativement se procurer de formidables quantités d'aliments pour pouvoir accumuler cette graisse, un seul mauvais été aurait suffi pour faire disparaître depuis bien longtemps l'espèce tout entière. Alors certes, il se pourrait qu'au cours de son évolution, l'être humain se soit distingué comme l'unique espèce de la planète Terre dont l'organisme ne serait pas programmé pour réguler les réserves de graisse en réponse aux périodes d'abondance comme de famine. Il se pourrait que pour la simple raison qu'elle dispose de nourriture à profusion, Certaines personnes stockent tellement de graisse corporelle qu'elles finissent par ne presque plus pouvoir bouger. Mais on ne peut adopter ce point de vue qu'en ignorant pratiquement tout ce que l'on sait en matière d'évolution. Un dernier argument étayant la thèse d'une régulation fine et précise de la graisse corporelle est que, dans notre organisme, tout le reste est minutieusement régulé. Pourquoi alors la graisse devrait-elle faire exception ? Les cancers et les maladies cardiovasculaires sont des signes flagrants de ce que le système de régulation d'un individu ne fonctionne pas bien. Lorsque quelqu'un accumule de la graisse en excès, il est logique que cela indique qu'il y a une anomalie dans le délicat système qui régule ses tissus adipeux. Ce qu'il nous reste à découvrir, c'est quelle est cette anomalie et ce que l'on peut faire pour y remédier. Second principe, l'obésité peut être causée par une anomalie du système de régulation si infime qu'il est impossible de la détecter par des moyens techniques d'origine humaine. Souvenez-vous de la question des 20 calories par jour abordée au chapitre 4. La thèse était qu'il suffit à une personne de se suralimenter de seulement 20 calories par jour, en ajoutant qu'1% voire moins à son apport calorique quotidien, sans augmenter d'autant sa dépense énergétique, pour devenir un ou une cinquantenaire obèse alors qu'elle était mince à l'âge de 20 ans. Dans le contexte du modèle de l'équilibre entre les calories consommées et les calories dépensées, cette thèse avait entraîné logiquement la question suivante. Comment certaines personnes parviennent-elles à rester minces si, pour ce faire, il leur faut équilibrer consciemment les calories qu'elles absorbent et celles qu'elles dépensent, tout en ne disposant que d'une marge d'erreur inférieure à 1%? Car cela semble impossible à réaliser, et ça l'est d'ailleurs très certainement. Eh bien, il suffit en fait que les dites 20 calories par jour soient malencontreusement dirigées par notre système de régulation vers nos cellules adipeuses pour que nous devenions obèses. C'est la même logique mathématique qui s'applique ici. Si en raison d'une association défavorable de facteurs génétiques et environnementaux, une erreur de régulation a pour conséquence que nos cellules adipeuses stockent 1% seulement des calories qui auraient dû être utilisées comme carburant par notre organisme, nous sommes destinés à devenir obèses. Et si ce détournement de calories vers les adipocytes est ne serait-ce qu'un peu supérieur à 1%, nous risquons de devenir à terme extraordinairement gros. Pourtant, cela semblerait n'être encore qu'une erreur de jugement relativement minime. Quelques pourcents seulement sont une donnée très difficile à mesurer, mais pas si difficile à imaginer. Troisième principe. Tout ce qui nous fait grossir en nous rendant à la fois plus gras et plus lourd nous entraîne à trop manger. C'est là l'enseignement principal tiré de l'expérience de Wade avec les rats opérées. Ce principe peut sembler contre-intuitif. Pourtant, il s'applique nécessairement à chaque espèce animale ainsi qu'à chaque être humain accumulant de la graisse corporelle. C'est sans doute la grande leçon que nous, y compris les experts de la santé, devons assimiler si nous voulons comprendre les raisons de la prise de poids et trouver des moyens de la combattre. Ce principe exprime une réalité fiable, fondée sur le premier principe de la thermodynamique, ou principe de la conservation de l'énergie, que les spécialistes de la santé ont mis tant de détermination à appliquer de façon erronée. Tout ce dont la masse augmente, pour quelque raison que ce soit, absorbe plus d'énergie qu'il n'en dépense. Cela signifie que si une anomalie de notre système de régulation nous fait devenir à la fois plus gras et plus lourd, elle nous fera nécessairement absorber davantage de calories. Notre appétit grandira. Et ou en dépenser moins que ce ne serait le cas si notre système de régulation fonctionnait parfaitement. La croissance de l'enfant constitue une métaphore utile pour mieux comprendre ce lien de cause à effet entre grossir et trop manger. Par exemple, mon fils aîné pesait 15,5 kg à pas tout à fait 2 ans. 3 ans plus tard, il avait grandi de 23 cm et pesait alors 23 kg. Ayant pris 7,5 kg en 3 ans, il avait certainement absorbé plus de calories qu'il en avait dépensé. Il s'était suralimenté. Cet excès de calories avait été utilisé pour créer l'ensemble des tissus et des structures nécessaires à un corps de dimension supérieure, y compris davantage de tissus adipeux. Mais mon fils n'a pas grandi parce qu'il absorbait une quantité excessive de calories. Au contraire, il a absorbé cette quantité excessive de calories parce qu'il était en pleine croissance. La croissance de mon fils, comme celle de n'importe quel enfant, est fondamentalement due à l'action de l'hormone de croissance. Au fil du temps, il lui arrivera de traverser des poussées de croissance qui seront accompagnées d'un appétit vorace, et sans doute d'une bonne dose de paresse, mais cet appétit et cette paresse seront motivés par la croissance, pas l'inverse. Son organisme requerra un excès de calories pour satisfaire aux exigences de la croissance, former un corps plus grand, et il trouvera un moyen de les obtenir, que ce soit en augmentant son appétit, en restreignant sa dépense énergétique, ou les deux. À la puberté, il perdra de la masse grasse et gagnera en masse musculaire. Il continuera à absorber plus de calories qu'il n'en dépensera, un phénomène lui aussi motivé par des changements hormonaux. Le principe selon lequel la croissance est la cause et la suralimentation l'effet s'applique presque assurément aussi aux tissus adipeux. Pour paraphraser ce que déclarait le spécialiste de médecine interne allemand Gustav von Bergmann à ce sujet il y a plus de 80 ans, il ne nous viendrait même pas à l'idée qu'un enfant grandit parce qu'il mange trop et ne bouge pas assez, ou à l'inverse qu'il souffre d'un retard de croissance parce qu'il fait trop d'exercice. Mais dans ce cas, pourquoi supposer que ce sont des explications valables quand on parle de prendre du poids ou de rester mince? Ce dont le corps a besoin pour grandir, il le trouve toujours, expliquait von Bergmann. Et ce dont il a besoin pour devenir gras, dût-ce être 10 fois plus, il le détournera à son profit. La seule raison de penser que ce n'est pas vrai, que cause et effet marchent dans un sens quand il s'agit de grandir, la croissance est cause de suralimentation, et dans un autre quand il s'agit de grossir, la suralimentation est cause de croissance, est que c'est là ce que nous croyons depuis toujours, et que nous n'avons jamais pris le temps de questionner pour vérifier que c'était une hypothèse réellement sensée. Il est en effet beaucoup plus rationnel de supposer que, dans les deux cas, la croissance détermine l'appétit, mais aussi la dépense d'énergie, et non l'inverse. Nous ne grossissons pas parce que nous mangeons trop parce que nous grossissons. Étant donné que ce postulat est certes fortement contre-intuitif, mais également indispensable à assimiler, je vais l'illustrer à son tour avec des exemples issus du monde animal. Les éléphants d'Afrique sont les plus grands animaux terrestres de notre planète. Les mâles pèsent généralement plus de 5 tonnes, mais leur corps contient étonnamment peu de graisse. Les baleines bleues sont les plus grands animaux de la planète, tant terrestres qu'aquatiques. Elles peuvent peser 135 tonnes, constituées de graisse pour une grande part. Les éléphants d'Afrique ingèrent plus de 200 kilos et les baleines bleues plus de 3 tonnes de nourriture par jour. Ceci n'est valable qu'en été. Durant le reste de l'année, les baleines semblent se nourrir de leurs réserves de graisse. Cela représente des quantités astronomiques, mais ni les uns ni les autres ne deviennent jamais obèses pour autant. S'ils mangent des quantités astronomiques de nourriture, c'est parce que ce sont des animaux gigantesques. Qu'ils possèdent ou non d'importants dépôts de graisse corporelle, c'est leur très grande taille qui détermine l'énorme quantité de nourriture qu'ils absorbent. Les jeunes de ces espèces mangent eux aussi de très grandes quantités de nourriture. En effet, ils naissent déjà dotés d'un très grand corps et leurs gènes les prédisposent à grandir et à grossir encore davantage jusqu'à atteindre les impressionnantes mensurations mentionnées ci-dessus. Or, la croissance et la taille corporelle augmentent toutes deux l'appétit, quel que soit le devenir des calories absorbées, stockées sous forme de graisse ou utilisées pour développer leurs muscles, organes et autres tissus. Que ces animaux présentent ou non d'énormes quantités de graisse corporelle, les mêmes causes aboutissent aux mêmes effets. Considérons maintenant ce que les chercheurs nomment des « modèles animaux d'obésité », c'est-à-dire des animaux qui, comme les rats de Wade, sont rendus artificiellement obèses en laboratoire. Au cours des 80 années écoulées, les chercheurs ont appris à rendre obèses des rats et des souris en faisant appel aux techniques de sélection, à la chirurgie, par exemple en leur enlevant leurs ovaires, à la nutrition, ainsi qu'à d'innombrables manipulations génétiques. Les animaux que l'on soumet à l'un ou l'autre de ces traitements peu tentants ne se contentent pas de développer des dépôts graisseux associés à une fonction, comme le font par exemple les baleines bleues ou les écureuils pour pouvoir hiberner, mais deviennent, eux, réellement obèses et se trouvent d'ailleurs confrontés aux mêmes troubles métaboliques, diabète compris, que les êtres humains souffrant d'obésité. Il est à noter que, quelle que soit la technique choisie pour rendre ces animaux obèses, ils le deviennent, ou grossissent tout du moins très sensiblement, comme c'était le cas des rats étudiés par Wade, qu'ils aient ou non la possibilité d'absorber davantage de calories que leurs congénères non manipulés. S'ils deviennent obèses, ce n'est donc pas parce qu'ils mangent trop, mais parce que le système de régulation de leurs tissus adipeux a été perturbé par des modifications physiques ou un changement d'alimentation. Ils se mettent à stocker des calories sous forme de graisse et leur organisme se trouve obligé de compenser. S'ils le peuvent, ils mangent plus, sinon ils réduisent leurs dépenses d'énergie et souvent ils font les deux. Prenons pour exemple la méthode qui, des années 1930 aux années 1960, a eu les faveurs des chercheurs qui voulaient rendre obèses des rats et des souris de laboratoire. Il s'agissait d'une technique chirurgicale nécessitant d'introduire une aiguille dans une partie du cerveau appelée hypothalamus, qui régit, et ce n'est pas un hasard, la sécrétion d'hormones pour le corps tout entier. Après l'opération, une partie des rongeurs se mettait à manger voracement et devenait obèse, une autre limitait son activité physique et devenait obèse, et une troisième mangeait voracement, limitait son activité physique et devenait obèse. La conclusion évidente était, comme le neuroanatomiste Stephen Ransom fut le premier à le suggérer, c'est le laboratoire de Ransom, département de la Northwestern University, qui a été dans les années 1930 à l'origine de ces expériences, que cette opération a pour effet direct de faire augmenter la quantité de graisse corporelle des rongeurs. Après l'intervention, leurs tissus adipeux absorbent des calories pour pouvoir produire davantage de graisse. Cela ne laisse pas suffisamment de carburant disponible pour le reste du corps, ce que Ransom appelait la famine semicellulaire cachée, et force l'organisme soit à augmenter sa consommation alimentaire générale, soit à limiter ses dépenses, soit à faire les deux. La seule façon d'empêcher ces animaux de devenir obèses est de les soumettre à une restriction de nourriture sévère et permanente, pour reprendre les termes utilisés par un physiologiste de l'université Johns Hopkins dans les années 1940. Car s'ils ont la possibilité de manger, même en quantité modérée, ils ne peuvent échapper à l'obésité. En d'autres termes, ils ne grossissent pas parce qu'ils mangent trop, mais simplement parce qu'ils mangent. Bien que l'opération soit pratiquée au niveau de leur cerveau, elle a pour effet de modifier profondément le système de régulation de la graisse corporelle, pas l'appétit. La même chose vaut pour les animaux sélectionnés pour être obèses, c'est-à-dire chez qui l'obésité est induite par la génétique. Dans les années 1950, Jean Mayer étudia dans son laboratoire de l'université de Harvard une de ses lignées de souris obèses. Il rapporta qu'en les affamant suffisamment, ils parvenaient à faire descendre leur poids au-dessous de celui de souris normales, mais que même ainsi, elles continuaient à présenter plus de graisse que les souris normales, tandis que leurs muscles avaient fondu. Ici encore, le problème n'était pas la suralimentation. Comme l'écrivait Mayer, ces souris transforment en graisse la nourriture qu'elles ingèrent même dans les conditions les plus défavorables, y compris lorsqu'on les affame à moitié. Les rats Zuckers sont également un exemple intéressant. C'est dans les années 1960 que les scientifiques ont commencé à étudier ces rongeurs qui comptent jusqu'à aujourd'hui parmi leurs modèles d'obésité favoris. À l'instar des souris de Mayer, ces rats sont génétiquement prédisposés à devenir gras. Un rat Zucker soumis à un régime restreint en calories à partir du moment où il est sevré ne devient pas plus mince que ses compagnons de portée, libres, eux, de manger à volonté. Au contraire, il devient plus gras. Son poids peut éventuellement être légèrement inférieur, mais il présente au moins autant, voire plus, de graisse corporelle. Bien qu'empêché d'être aussi vorace que ses congénères, il engraisse davantage que s'il n'avait jamais été soumis à un régime restrictif. En contrepartie, ses muscles et ses organes, y compris son cerveau et ses reins, présentent un volume inférieur à la normale. De même que les muscles des souris de Mayer fondaient quand on les affamait, les muscles et les organes de ces rats Zucker, à moitié affamés, sont d'une taille nettement réduite comparée à ceux de leurs compagnons de portée, libres de se nourrir à leur guise. Afin de permettre le développement de cette composition corporelle obèse face à une restriction calorique, écrivait le chercheur qui rapporta cette observation en 1981, plusieurs organes en développement chez ces rats obèses sont menacés. Arrêtons-nous un instant sur cette réflexion. Si un bébé rat génétiquement programmé pour devenir obèse est soumis dès son sevrage à un régime tel qu'il ne peut pas manger plus que ne le ferait un rat mince, au mieux, et ne peut jamais manger autant qu'il le voudrait, il répond en mettant en danger ses organes et ses muscles pour satisfaire la pulsion génétique qui le pousse à engraisser. Son organisme ne se contente pas d'utiliser pour engraisser l'énergie qu'il dépenserait normalement pour ses activités quotidiennes, il accapare et utilise les matériaux et l'énergie qu'il consacrerait normalement à la construction de ses muscles, de ses organes et même de son cerveau. Lorsqu'on affame ces rongeurs obèses jusqu'à ce que mort s'en suive, une expérience n'ayant heureusement été menée que par un petit nombre de chercheurs, il est fréquemment fait état qu'une grande partie de leurs tissus adipeux était intacte après leur mort. En fait, lorsqu'ils meurent, ils présentent fréquemment plus de graisse corporelle que des animaux minces pouvant manger autant qu'ils le veulent. Lorsqu'un animal est affamé, et cela vaut également pour l'être humain, il consomme donc ses muscles pour disposer de carburant, et cela vaut notamment à terme pour son muscle cardiaque. En d'autres termes, à l'âge adulte, l'organisme de ces animaux obèses est prêt à mettre en danger les organes, y compris le cœur et donc la vie elle-même, pour préserver le tissu adipeux. On le voit, le message des 80 ans de recherche sur les animaux obèses est simple et inconditionnel, et méritent d'être répétées. Ce ne sont pas la gloutonnerie et la paresse qui entraînent l'obésité. Seul un changement dans le système de régulation du tissu adipeux peut faire d'un animal mince un animal obèse. La quantité de graisse corporelle que présentent les animaux obèses est déterminée par un équilibre entre les différentes forces agissant sur le tissu adipeux, c'est-à-dire, comme nous le verrons plus tard, sur les adipocytes, soit pour lui apporter de la graisse, soit pour lui en retirer. Quelle que soit la façon dont on fait engraisser ces animaux, opération chirurgicale ou manipulation génétique, elle a pour effet de modifier cet équilibre, de telle sorte que les animaux accroissent leur réserve de graisse. Le concept de la suralimentation, l'idée que l'on peut trop manger, se vide donc de son sens car des quantités de nourriture qui seraient normales dans un contexte habituel deviennent alors excessives. Le tissu adipeux ne réagit pas à la quantité de nourriture qu'absorbent ces animaux, mais uniquement aux forces qui leur font accumuler de la graisse. Et comme le fait d'augmenter leur quantité de graisse corporelle exige d'eux une énergie et des nutriments dont leur organisme a besoin par ailleurs, ils saisissent la moindre occasion de se nourrir davantage. Et s'ils n'en ont pas l'occasion, s'ils sont soumis par exemple à un régime strict, ils dépensent moins d'énergie pour la simple raison qu'ils en ont moins à dépenser. Ils peuvent même aller jusqu'à mettre en danger leurs organes, parmi lesquels le cerveau, ainsi que leurs muscles. Même s'ils sont à moitié affamés par un régime extrêmement restrictif, ces animaux trouvent toujours un moyen d'emmagasiner des calories sous forme de graisse, parce que c'est désormais pour cela qu'est programmé leur tissu adipeux. Si cela fonctionne également ainsi chez l'être humain, et il y a peu de raisons de penser le contraire, cela explique ce qu'il nous est si difficile de concevoir, que des mères puissent être à la fois très pauvres et en surpoids, tandis que leurs enfants sont maigres et chétifs. Car cela implique qu'en réalité, tant les mères que les enfants sont à moitié morts de faim. Avec leur corps famélique et leur retard de croissance, les enfants répondent à la sous-nutrition d'une façon qui correspond à ce que l'on attend logiquement, tandis que les tissus adipeux de leur mère fonctionnent, eux, selon un programme différent. Nous verrons bientôt comment cela est possible. Accumulant de la graisse en excès et continuant à le faire quoi qu'il arrive, même si ces femmes ont, comme leurs enfants, à peine assez à manger pour survivre. Mais elles doivent dépenser moins d'énergie pour compenser. Avant de passer à autre chose, je souhaite aborder une dernière question. Qu'est-ce que les principes de l'adiposité et la recherche sur les animaux nous apprennent sur les personnes minces ? Outre les modèles animaux d'obésité, des chercheurs ont également créé ce que l'on pourrait appeler des « modèles animaux de minceur », c'est-à-dire des animaux dont les gènes ont été manipulés pour qu'ils soient plus minces qu'ils ne le seraient naturellement. Ces animaux restent minces même lorsqu'on les force à consommer plus de calories qu'ils ne le feraient eux-mêmes, par exemple en injectant des nutriments et des calories directement dans leurs intestins. Dans ces cas-là, il est probable que les animaux doivent se dépenser davantage pour pouvoir brûler ces calories. Cette implication est aussi contre-intuitive que tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent. De même que la recherche animale nous apprend que la gloutonnerie et la paresse sont les effets secondaires d'une pulsion à accumuler de la graisse corporelle, elle nous apprend que le fait de manger avec modération et d'être physiquement actif, littéralement d'avoir l'énergie de s'activer, ne sont pas des preuves de rectitude morale, mais les avantages métaboliques d'un corps programmé pour rester mince. Quelqu'un dont les tissus adipeux sont régulés de telle façon qu'il n'emmagasine pas de quantité importante de calories sous forme de graisse, ou dont les tissus musculaires sont régulés pour brûler plus de calories que la normale, va soit moins manger que les personnes prédisposées à prendre de l'embonpoint, cela vaut pour le premier cas de figure, soit être plus actif physiquement, ce qui vaut pour le second cas, soit les deux. Cela implique que si des marathoniens sont si minces, ce n'est pas parce qu'ils s'entraînent religieusement et brûlent ainsi des milliers de calories. C'est parce qu'un besoin les pousse à dépenser ces calories, et parfois à faire plusieurs heures de sport chaque jour, voire à devenir des coureurs de fond obsessionnels, pour la simple raison qu'ils sont programmés pour brûler des calories et être minces. De même, si un lévrier est physiquement plus actif qu'un basset, ce n'est pas parce qu'il désire consciemment faire de l'exercice, mais parce que son organisme achemine les calories vers ses tissus maigres et non vers ses tissus adipeux. On peut avoir envie de croire que l'on reste mince parce que l'on est vertueux et que l'on prend du poids parce qu'on ne l'est pas, mais les faits prouvent le contraire. La vertu a à peu près autant d'impact sur notre poids que sur notre taille. Nous grandissons parce que nos hormones et nos enzymes nous font grandir et en conséquence, nous consommons plus de calories que nous n'en dépensons. La croissance constitue la cause. L'augmentation de l'appétit et la restriction de la dépense énergétique, que l'on qualifie respectivement de gloutonnerie et de paresse, en sont les effets. et nous grossissons suivant le même principe. Nous ne grossissons pas parce que nous mangeons trop, nous mangeons trop parce que nous grossissons.